Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Nous sommes déjà en octobre, même si l'été est toujours là. Et octobre, c'est aussi Octobre Rose, le mois de la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein qui touche 60 000 femmes par an. Je suis ravi d'accueillir Isabelle Huette, qui est directrice générale de l'association Rose Up, association qui informe, qui accompagne, qui défend les femmes atteintes de cancer, et pas seulement du sein. Sur ces 60 000 cancers du sein, le tiers doit subir une ablation mammaire. Krishna Klof, qui est chirurgien plasticien, oncologue spécialisé dans la chirurgie du sein, a créé l'Institut du sein en 2005 pour aider les femmes à reconstruire leur sein après une mastectomie. Il est mon deuxième invité. Enfin, l'espérance de vie augmentant, de plus en plus en bonne santé bien sûr, l'idée est de bien vieillir et pourquoi pas dans des résidences seniors. Olivier Vignol, président de Domitis, leader européen des résidences seniors, va nous dire pourquoi ces résidents sont satisfaits à 96%. Check-up santé, c'est parti. Isabelle Huette, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes la directrice générale de Rose Up, association d'intérêt général, que vous avez rejoint en 2017. Après être passée quand même par un autre métier, celui d'attaché parlementaire au Sénat. Je vais donner quelques petits chiffres. Je vous épargne de les donner. 382 000 cancers féminins par an, dont 60 000 pour le sein. Et ces chiffres sont en augmentation. On sait pourquoi ces chiffres sont en augmentation ?
Pour différentes raisons. Déjà, c'est le vieillissement de la population, l'augmentation de la population, et puis le développement de facteurs de risque individuels, environnementaux, etc.
Le tabac intervient aussi.
Oui.
Et surtout, ce qui est important, c'est que 63% de ces femmes qui ont été opérées, qui ont eu un cancer du sein, souffrent de séquelles jusque même 5 ans après. Mais on ne les abandonne quand même pas, non ? C'est un petit peu la mission de votre association ?
Oui, d'ailleurs c'est 63%, c'est tout type de cancer, que ce soit les femmes ou les hommes qui subissent encore des séquelles de leur maladie 5 ans après.
Et donc,
c'est d'ailleurs pourquoi
qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux.
Exactement, qu'on les informe et qu'on les accompagne.
Oui, vous dites que dans Rose, de Rose Up, il y a Ose.
Oui, tout à fait, oui, parce qu'on a un ADN très positif et finalement notre objectif c'est de permettre à ces femmes de mener la vie la plus dynamique possible.
Alors justement, donc Rose Up donc existe depuis plusieurs années, vous l'avez rejoint en 2017, je disais. Alors quelle est sa mission exactement ?
Bien, Rose Up a trois missions, l'information, l'accompagnement et la défense des droits des femmes touchées par tout type de cancer en France. Mmh. Et en matière d'information, nous publions un magazine féminin qui s'appelle Rose Magazine.
Fameux magazine, très connu ce magazine.
Voilà, qui est distribué gratuitement dans les principaux services et centres de cancérologie en France. Mmh. Et qui a vraiment pour objectif de donner à ces femmes toutes les informations nécessaires et les outils nécessaires pour être actrices de leur parcours de soins et plus largement de vie.
C'est un véritable magazine, c'est pas une...
Oui, tout à fait. C'est un magazine professionnel, fait par une équipe de journalistes professionnels.
Et qui paraît régulièrement
Qui paraît malheureusement que deux fois par an, parce que ça coûte très cher à produire pour une association, mais qui est complété
partenaires.
Oui, exactement.
Oui, d'accord.
Par une centaine de nouveaux articles chaque année sur notre site internet rose-up.fr.
Alors justement, donc en plus du magazine papier, il y a le site internet qui reprend un petit peu les mêmes informations.
Oui, c'est tout type d'articles, à la fois des articles médicaux sur la recherche, des témoignages, beaucoup de ressources d'articles pratico-pratiques, vraiment extrêmement variés sur le même modèle d'ailleurs que le magazine papier.
Alors après informer, c'est accompagner. De quelle façon vous accompagnez ces...
Eh bien, nous avons ce qu'on appelle des maisons Rose Up. Ce sont des jolis cocons bien décorés en centre-ville à Bordeaux et à Paris, où les femmes peuvent à la fois rompre leur isolement, mais aussi être écoutées et accompagnées dans la gestion de leurs effets secondaires.
Le digital, c'est bien, mais parfois c'est sympa de voir Oui. Les gens en chair et en os.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que nous avons ouvert ces deux maisons à Paris et Bordeaux, où elles peuvent être donc accompagnées dans toutes les dimensions de à la fois leurs effets secondaires, mais aussi sur d'autres sujets comme par exemple le maintien et le retour à l'emploi. Nous avons à peu près 150 ateliers par mois sur de la beauté, bien-être, de l'activité physique adaptée, des ateliers autour de la nutrition, des conférences d'information, et puis ces programmes spécifiques sur le retour à l'emploi, des programmes dédiés aux femmes atteintes de cancer métastatique aussi, parce que ça c'est un sujet aussi important.
Bien sûr, et vous parlez aussi de la troisième mission, c'est défendre.
Oui.
Et défendre contre quoi, contre qui?
Eh bien en fait c'est la défense des droits, puisque c'est vrai qu'en France on dépense beaucoup d'argent pour bien soigner les personnes touchées par un cancer, mais malheureusement il y a encore un décalage finalement entre leur place dans la société et ses progrès. Par exemple, on s'est beaucoup attaché depuis la création de l'association à favoriser l'accès à l'emprunt à travers une loi, par exemple, sur le droit à l'oubli. Parce que c'est vrai que quand on a été malade, y compris pendant de nombreuses années après la fin des traitements, l'accès à l'emprunt est compliqué, puisque le secteur de l'assurance ne prend pas suffisamment en compte les progrès de la médecine et de la recherche.
Il y a combien d'adhérents Rose Up?
On a à peu près 2500 adhérentes partout sur le territoire, et puis avec le développement aussi d'une troisième maison Rose Up à distance, ça nous permet d'accompagner encore plus de femmes, puisqu'aujourd'hui on a 4000 bénéficiaires de ce nouveau service.
D'accord. Et ce sont des bénévoles qui travaillent dans vos maisons ou...
Alors, on a un fonctionnement assez particulier, puisqu'on a très peu de bénévoles, parce qu'on souhaite vraiment avoir un accompagnement de qualité et avec une qualité la plus permanente possible. Donc, on a plutôt des salariés au sein de nos maisons, à peu près 5 salariés par maison, et une équipe d'une quarantaine d'intervenants professionnels qui sont rémunérés pour la plupart.
Oui, il y a quand même quelques dizaines de milliers de d'hommes et femmes qui regardent votre, qui consultent votre site, non?
Oui, tout à fait. On a un site.
Parce que vous parliez de 2500 adhérents, mais.
Oui. Oui, tout à fait.
Plus,
les adhérents ne sont qu'une partie finalement de notre communauté au sens large. On a aussi une très grosse communauté sur les réseaux sociaux. On a à peu près 50 000 abonnés, une newsletter à laquelle 19 000 personnes sont abonnées.
Donc. Ouais. Je rappelle quand même que vous avez gagné le Grand Prix de Check-up Santé cette année.
pour notre projet Ma Maison Rose Up d'accompagnement à distance.
Alors, justement, comment faites-vous financièrement? Parce que tout ça, évidemment, ça coûte ça coûte cher.
Oui.
Comment faites-vous alors?
Eh bien, nous avons plusieurs types de ressources, des partenariats avec des entreprises sous la forme de mécénat. On a aussi beaucoup de produits partage, par exemple, du mécénat de compétences aussi. On a la chance, par exemple, pour le magazine, d'avoir une livraison qui est assurée sur tout le territoire par les groupes DPD et Géodis, qui sont vraiment des soutiens depuis le début. Nous avons aussi des subventions.
Des dons. Financement public aussi?
Oui, des financements publics qui représentent à peu près 15% de nos ressources. Et puis des dons des particuliers.
Bon, j'imagine que le cancer augmentant, ce n'est jamais assez. Donc,
oui, tout à fait. On a toujours de nouveaux projets, de nouveaux besoins. Donc
on lance un appel quand même pour les dons.
Tout à fait.
Sur quel on va où?
Sur le site rose-up.fr, il y a un onglet don, tout simplement, qui est assez visible.
Merci
pas.
Beaucoup. Merci beaucoup Isabelle Huet. Merci beaucoup pour ce que vous faites, directrice générale de Rose Up. On va à présent accueillir Krishna Klof, qui est chirurgien plasticien et cofondateur de l'Institut du Sein à Paris.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Krishna Klof, bonjour.
Bonjour.
On commence par envoyer un petit message à Isabelle Safati qui devait venir aujourd'hui.
J'ai beaucoup de difficultés à la remplacer. Elle devait venir avec vous et accident de scooter hier soir. Rien de grave, mais une épaule un peu abîmée pendant quelques semaines.
Alors, vous êtes chirurgien plasticien, vous êtes cancérologue, ancien chef de service de l'Institut Curie, spécialisé dans le sein.
C'est
donc,
ça.
Cancéro et plastie.
On a il y a une trentaine d'années maintenant réalisé que les chirurgiens qui s'occupaient du cancer du sein, qui enlevaient les seins ou qui gardaient les seins, devaient avoir des compétences en chirurgie plastique. Et on a, un certain nombre d'entre nous, il y a 30 ans, décidé de se former dans les deux spécialités. Donc on a été diplômé, si vous voulez, en chirurgie du cancer, du sein en particulier, est diplômé en chirurgie plastique. Et on a fondé en France, et on est très fiers, parce que ça s'est exporté dans le monde entier, une spécialité qu'on appelle l'oncoplastique du sein, des cancérologues qui sont aussi plasticiens du sein.
Et donc, vous avez créé, donc, il y a près de 20 ans presque, en 2005, vous avez créé avec Isabelle Sarfati, justement, vous êtes les deux cofondateurs, l'Institut du sein.
L'Institut du sein Paris.
Consacré au sein, sein SAIN ou pathologique.
Sein SAIN ou pathologique. En fait, à l'Institut du sein Paris, puisqu'ensuite, il y a eu d'autres instituts du sein, les bonnes idées se répètent et se reproduisent. Donc, l'Institut du sein Paris, c'est une équipe de chirurgiens qui s'occupe du sein malade, le cancer, de la reconstruction, et aussi des plasticiens qui s'occupent de la chirurgie esthétique du sein. Donc, on a une activité cancérologique, reconstruction et esthétique du sein.
Alors, après donc, un cancer du sein, il n'y a pas tout le temps de mastectomie systématique, heureusement.
Non, en France, on a des taux très élevés de conservation. 70-72% des Françaises qui ont un cancer du sein gardent leur sein. Mm-hmm. Donc, 28% ont une mastectomie. C'est l'un des taux les plus forts au monde.
D'accord, ça fait donc sur 60 000 cancers du sein par an, donc 20 000 quand même vont subir une mastectomie à peu près.
Ça, un peu moins, mais avec les patientes qui ont une mastectomie secondairement, schématiquement, tous les ans, 20 000 femmes en France ont une mastectomie, une ablation du sein, avec reconstruction immédiate dans 17% des cas.
Une mastectomie partielle ou totale ?
Totale. Quand on dit mastectomie, là, on parle des mastectomies totales.
Oui, on n'enlève pas simplement la tumeur, c'est une mastectomie totale. Et donc, qui dit mastectomie, dit, heureusement, donc reconstruction. Et cette reconstruction peut se faire soit immédiatement, soit de façon différée ?
C'est ça. Il faut que les femmes qui ont une mastectomie sachent que une ablation du sein peut toujours être reconstruite. On reconstruit des patientes qui sont très jeunes, mais on reconstruit aussi des patientes qui sont très âgées. La reconstruction est toujours possible. La discussion qu'il y a avec les cancérologues, c'est est-ce qu'on peut la faire en même temps ? Donc, le plus souvent, la réponse est oui, si les équipes sont formées à ça. Mais ces femmes qui n'ont pas eu une reconstruction immédiate peuvent toujours bénéficier d'une reconstruction quelques mois plus tard.
Oui, on parle de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de femmes qui sont en attente de reconstruction.
Oui, parce que si vous faites le calcul, on a 60 000 cancers du sein en France, en gros 20 000 mastectomies. Sur 10 ans, ça fait 200 000 femmes qui ont eu une mastectomie en France.
Surtout combien de chirurgiens, oncologues
et toutes ne sont pas reconstruites. Et des chirurgiens très spécialisés en reconstruction, on n'est pas très nombreux. Oui. Et surtout, le plus souvent, sont pas regroupés dans des équipes. Vous avez des chirurgiens qui s'occupent de reconstruction, qui sont un peu isolés. Ce qu'on a décidé de monter dans le cadre de l'Institut du sein Paris, c'est une équipe qui s'appelle Restitut et qui est dédiée à la reconstruction du sein.
Donc c'est justement ce Restitut donc évite, je veux dire, va faciliter le parcours, c'est ça, de la patiente.
Alors l'idée de Restitut, c'est de dire, tout comme pour le cancer du sein, il y a un parcours qu'on peut vous faciliter. Le cancer du sein, c'est des équipes constituées. Tout le monde trouve ça normal de se faire prendre en charge par une équipe. Restitut, c'est la même chose appliquée à la reconstruction du sein. Vous avez une équipe de 6 chirurgiens qui vont proposer toutes les techniques possibles. Il y a 6 ou 7 techniques de reconstruction. Restitut, c'est la seule équipe libérale en France qui dispose de toutes ces techniques. Et puis c'est aussi un staff où tous les dossiers des patientes sont discutés pour une sécurité maximum et une prise de décision en équipe. C'est une visioconsultation possible pour les femmes qui veulent pas se déplacer jusqu'à Paris. Donc c'est la mise en place d'un circuit qui va faciliter la prise de décision pour une reconstruction.
Donc une espèce de téléconsultation ?
Une téléconsultation qui est possible avec nos spécialistes, qui sera évidemment suivie d'une consultation en visuel si la patiente décide de se faire opérer.
Et ce que j'ai lu, quand même, c'est important de le dire, c'est que c'est 24 heures sur 24, et puis surtout, c'est un tarif conventionné.
Alors, la consultation, c'est pas 24 heures sur 24.
Ouais, dommage.
Oui, on dort déjà pas beaucoup. La consultation, c'est aux horaires habituels de consultation, mais c'est vrai que pour nos patientes qui sont opérées, pour nos patients post-opératoires, on est disponible 24 heures sur 24.
D'accord.
Et dans le cadre d'Octobre Rose, la téléconsultation d'information sur la reconstruction mammaire va être facturée 65 €, c'est-à-dire le reste à charge pour la patiente pendant Octobre Rose est de 10 €.
Alors, vous avez parlé de reconstruction, elle peut se faire aussi en plusieurs temps, non ? Parfois.
Alors la reconstruction, je dis toujours la même chose. Pour un implant dentaire, les gens savent qu'il faut en général aller deux fois. On pose l'implant, puis on met la dent. Pour un sein, c'est à peu près pareil. Il y a une première intervention, on va poser la prothèse, on va retoucher le sein de l'autre côté. Et il y a une deuxième intervention de finition, d'amélioration, en général en hôpital de jour. Donc un temps de reconstruction, c'est en moyenne 2 interventions. Il y a une étude américaine qui vient de sortir qui dit qu'aux États-Unis, c'est 2,5 interventions. Dans notre équipe, on est à moins de 2 interventions.
À moins de 2 interventions.
Parce que en moyenne.
Parfois, c'est une chirurgie assez complexe.
Oui, c'est complexe, mais on est hyper spécialiste de ça. Oui,
j'imagine. J'avais aussi invité, il y a quelques années, une personne qui était spécialisée dans le tatouage.
Ah oui.
Oui, ça fait partie, vous avez absolument ces gens dans cette
Alors,
dans
équipe. Alors, le tatouage 3D, blond, c'est évidemment très important, parce qu'en fait, la reconstruction du sein, aussi belle fut-elle, si, tant qu'il n'y a pas d'aréolée de mamelon, un patient dit, j'ai pas de sein. Et on a avec nous, à Restitut, Laurence Malzard, qui est une tatoueuse artiste, qui le dit elle-même, hein, elle a eu un cancer du sein, elle s'est entraînée ensuite à ces techniques, et elle offre aux patientes ce qu'on peut aujourd'hui obtenir de meilleur en termes de tatouage 3D.
Donc j'imagine que la reconstruction mammaire, d'un point de vue esthétique, c'est de mieux en mieux, non ?
C'est de mieux en mieux. Ce que je dis aux patientes qui viennent nous voir en consultation, c'est vous pourrez vous mettre en maillot de bain, vous pourrez vous mettre en décolleté, vous pourrez porter les vêtements que vous voulez quand la reconstruction a réussi. Quand vous serez nu devant votre miroir, évidemment les deux seins sont différents, mais on va vous redonner la possibilité de vivre une vie normale sans avoir cette prothèse externe que vous mettez tous les jours.
Qui est lourde en plus.
Qui est lourde, qui est inconfortable et qui est surtout un rappel de la maladie.
Alors, pour finir, donc, parlez-moi de ce service génial qui s'appelle Solidarité Perruque.
Alors ça, c'est... Isabelle, je regrette vraiment que tu ne sois pas là. Hein. Mais ça, c'est Isabelle Sarfati qui a monté cette idée que je trouve assez extraordinaire. Les femmes qui sont en cours de chimiothérapie pour un cancer du sein ou autre peuvent avoir une perte de cheveux. Ce n'est pas systématique, mais elles peuvent avoir une perte de cheveux. Elles ont évidemment recours à des perruques et ces perruques sont parfois onéreuses, surtout quand on arrive sur des perruques de bonne qualité. Eh bien, certaines de nos patientes font don de leurs perruques pour d'autres patientes pendant les quelques mois où elles auront une alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux temporaire. Les cheveux repoussent toujours. Donc, Solidarité Perruque, ça a été monté pour mettre en rapport celles qui n'ont plus besoin de leur perruque et celles qui vont en avoir besoin pendant quelques mois.
Sans passer par l'Institut, bien sûr.
Sans passer par l'Institut. C'est un site à part qu'Isabelle Sarfati a monté à la force du poignet.
Et puis, c'est vrai que Isabelle Sarfati me disait que les femmes qui ont utilisé ces perruques sont contentes de s'en débarrasser, de donner le relais à d'autres.
J'ai eu des béquilles et des attelles pendant quelques temps à chaque accident de moto et je suis très content de jeter mes béquilles et mes attelles.
Merci beaucoup Krishna Koff. On embrasse Isabelle Sarfati, patron de l'Institut du Sein et de Restitut. On va à présent accueillir Olivier Vignol, qui est président de Domitis, leader européen des résidences seniors.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Olivier Vignol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur notre plateau. Vous sévissez depuis 30 ans quand même dans le monde de l'immobilier. Vous avez dirigé ICAD et vous êtes depuis très peu, depuis quelques mois, le président de Domitis. C'est vrai que la population vieillit, ça c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle vieillit bien.
Ben oui, le bien vieillir, c'est un enjeu majeur de notre société. Parce qu'il y a un vieillissement, vous avez peut-être en tête, mais la population des seniors de plus de 75 ans va croître de près de 50% entre 2020 et 2030. Donc le bien vieillir, c'est un enjeu majeur pour nos sociétés occidentales.
Alors justement, ça tombe bien, vous êtes le leader des résidences, leader européen des résidences seniors, avec 150, c'est ça, résidences, plus 50 en construction ?
Un tout petit peu plus, même 160 en service, et puis une cinquantaine en cours de construction qui sont livrées dans les deux prochaines années.
Vous avez, j'ai lu que vous aviez 23% à peu près du marché, des résidences seniors, et quasi 20 000 résidents.
Quasi.
Oui, et que vous étiez, et que AG2R La Mondiale était un de vos gros actionnaires.
AG2R La Mondiale, qui est un groupe de prévoyance, de complémentaire santé et de retraite complémentaire, a pris le contrôle de Domitis en juin 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans.
Alors, ce qui est important, c'est de préciser que les résidences seniors, ce ne sont ni des EHPAD, ni des maisons de retraite. On est d'accord ?
Ben c'est une différence. Hein. Les résidences services seniors, c'est plutôt pour ce qu'on appelle le quatrième âge, 75 à 90 ans. Et surtout, ce sont des seniors qui sont encore autonomes, qui sont non dépendants. Mmh. Grande différence avec les EHPAD, nous ne faisons pas de soins. Et évidemment, quand les seniors deviennent dépendants, doivent aller dans les EHPAD. Nous ne sommes pas équipés pour délivrer des prestations de soins.
Alors même si l'idée c'est que les patients restent le plus longtemps possible autonomes, voire chez eux, c'est pas toujours évident.
C'est-à-dire que nous,
pour différentes raisons d'ailleurs.
Pour différentes raisons, ils viennent d'abord chez nous parce qu'ils sont fragilisés, par exemple la santé physique, la santé mentale. Souvent parce qu'ils sont seuls. On a un peu plus de 70% de femmes seules, donc ils craignent la solitude et donc ils viennent dans des structures comme les nôtres où ils trouvent à la fois des logements adaptés qui ont été conçus pour des personnes âgées fragilisées, des services et des activités. Et c'est vrai que c'est une proposition pour les seniors autonomes qui répond vraiment à une aspiration très forte de cette partie de la population.
D'accord. Donc le concept de vos résidences, c'est une personne globalement autonome, plus ou moins.
Voilà, oui, c'est des les gens. L'âge d'entrée moyen chez nous, c'est un peu inférieur à 82 ans. Personne autonome, fragilisée. Ça veut dire quoi? Souvent, parce qu'il a peut-être perdu ou son conjoint, sa conjointe. Il habitait une maison, ne peut plus s'en occuper. Craint la solitude. A des difficultés quand même pour organiser peut-être sa vie sociale. A perdu pas mal d'amis. Et encore une fois, chez nous, au-delà d'un logement adapté qui a été conçu, on construit hein, nous, nos résidents. Ça veut dire qu'on les conçoit et on les construit avec un cahier des charges très adapté. Il y a surtout des services qui vont de la restauration, l'accueil, la distribution du courrier, la distribution des médicaments, enfin on peut un certain nombre de services, et puis beaucoup d'activités, soit sportives ou intellectuelles ou cérébrales ou culturelles, et en fait de rester actif retarde la dépendance. Les études statistiques le montrent, il n'y a pas de débat. Plus on peut rester actif, y compris dans le sport d'ailleurs, et plus l'âge de la dépendance va se reculer.
Et moins on est seul aussi, moins on est isolé.
Alors, c'est pas, évidemment, on ne vend pas ça comme un service ou une prestation, mais on sait que l'un des très fortes motivations pour venir chez nous, c'est la crainte de l'isolement, la crainte de se retrouver seul. Beaucoup de gens viennent chez nous pour faire du rapprochement familial, parce que maintenant les familles sont mobiles, les enfants ont déménagé, et finalement, ce sont les parents qui déménagent pour le rapprochement familial. Donc la sociabilisation dans une résidence chez nous, il y a 25 collaborateurs, il y a environ une centaine de seniors, tout ça, ça fait un groupe de gens qui créent une petite société, ils vivent entre eux, et ça c'est vraiment quelque chose, c'est une proposition non marchande, mais qui a vraiment tout son intérêt pour les seniors que nous accueillons.
Et vous êtes répartis un petit peu partout en France, plutôt en ville, plutôt...
Alors les seniors ont un peu de difficultés, hein, même quand ils sont autonomes à se déplacer, donc on essaye d'être toujours très proche des centres-villes.
Génération, oui.
Alors on a une couverture nationale, de taille de villes petites, moyennes ou les grandes métropoles, mais c'est vrai que la proximité quand même de la pharmacie, de la boulangerie, puisque les gens ont des appartements avec une cuisine équipée, etc., donc ils peuvent aller faire leurs courses, on les emmène faire leurs courses aussi avec les petites voitures de la résidence, mais c'est vrai qu'on est toujours, on n'est pas en pleine campagne comme pouvaient l'être autrefois les EHPAD ou les maisons de retraite, on est proche des centres-villes, et effectivement l'un des difficultés, c'est qu'on cherche également à avoir des espaces verts pour que les gens puissent se promener, donc trouver des grands terrains bien situés en centre-ville avec des espaces verts, c'est l'une des gageurs de développer notre réseau de résidences, parce que ça n'est pas facile.
Il n'y a pas de limite d'âge pour entrer dans une résidence, évidemment à 50 ans ou 55 c'est impossible, mais il n'y a pas de limite d'âge aussi bien inférieur que supérieur.
Il n'y a pas de limite d'âge, il y a surtout le fait que les gens doivent être autonomes, et aujourd'hui on voit beaucoup de nos résidents qui voudraient rester même quand il y a une perte d'autonomie, malheureusement on n'est pas toujours équipé pour les prendre en charge, et puis c'est vrai que je vous dis, limite d'âge par le bas, il n'y en a pas. En France, on
certains
constate...
gardent une activité professionnelle.
Non, ça assez d'accord. Peu, ils sont tous retraités, mais c'est vrai qu'on essaye d'attirer des seniors plus jeunes, 82 ans aujourd'hui d'âge d'entrée moyenne. On voit dans les pays anglo-saxons notamment des concepts qui marchent très bien à partir de 65 ans, donc nous on essaye, on travaille beaucoup la communication vis-à-vis des gens de plus de 75 ans pour essayer d'avoir des seniors un petit peu plus jeunes dans nos résidences, parce que notre proposition de service leur est également très adaptée.
Alors il peut y avoir aussi des séjours temporaires ou pas?
Alors oui, c'est pas facile pour un senior de déménager, de quitter son domicile historique. Pas un mouvement qui se fait immédiatement, facilement, comme quand vous avez 35 ou 40 ans. Donc c'est vrai que dans chaque résidence, où il y a à peu près entre 110 et 120 appartements, on en garde toujours 3, 4, 5 pour faire des séjours temporaires qui sont des séjours découvertes que l'on propose une semaine, 15 jours, un mois pour que les futurs résidents viennent tester le concept, voir s'ils s'y plaisent, voir si là, ils sont à l'aise. Et ça, ça marche très très bien. On a un taux de transformation entre les séjours temporaires qui deviennent des résidents permanents de plus de 50%. Donc on continue à développer ce concept de séjour temporaire, y compris dans les stations balnéaires, y compris pendant l'été. Ça leur permet également de suivre leur famille qui se déplace à la faveur des vacances d'été.
D'où cet indice de satisfaction énorme.
Alors oui, très élevé. Moi, je rejoins cette société
évidemment par une
récemment. Donc je le dis d'autant plus que je n'en suis pas le premier responsable, mais plus de 96% de taux de satisfaction de nos résidents. Je pense le plus élevé du marché
par une
de loin.
Société indépendante, évidemment.
Et voilà, société externe et indépendante. Et surtout, on constate c'est que la première source d'indication de nouveaux résidents, c'est le parrainage de nos résidents actuels qui font venir de certains de leurs connaissances, certains de leurs amis. C'est la première source de nouveaux résidents pour nous. Et ça, je crois que c'est un signe vraiment de la qualité du service que nous délivrons.
Alors justement, parmi ces services, évidemment, il n'y a pas de service médicalisé, mais il y a quand même une coordination.
Non, même pas. Les termes sont très importants puisque la coordination médicale est un service qui est encadré également par la réglementation. Et nous ne nous faisons pas. Certains nos concurrents le font.
Enfin,
nous,
certains médecins, par exemple, peuvent venir.
On recommande des médecins. On prête des locaux pour que des médecins viennent faire des permanences dans la résidence. On peut indiquer des adresses d'infirmières ou d'auxiliaires de vie. Mais nous ne faisons pas aujourd'hui la coordination médicale. La seule chose que l'on fait, c'est on peut s'occuper d'aller chercher les médicaments pour nos résidents, pour pas qu'ils n'aient à se déplacer, mais nous ne portons pas de jugement sur l'ordonnance qui leur est faite, sur la postologie, sur la manière dont il fait. Évidemment. Voilà, le concept, c'est des résidents autonomes, et nous sommes non médicalisés, à chacun son segment, à chacun son cœur de métier.
Eh bien, merci Olivier Lignol et bravo pour ce que vous faites pour nos seniors. Je rappelle que vous êtes le président de Domitis. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.